Bonjour et merci pour ce défi que j'ai dû relever pour ce matin pour répondre au cahier des charges. Donc comme Benoît l'a dit, je suis plutôt statisticien, c'est-à-dire que mon métier consiste à structurer et à apporter de l'aide à la décision. Donc je ne suis pas un spécialiste de la cyber, mais j'ai dû monter en compétences pour aujourd'hui, ce qui a été très très intéressant pour moi. Je ne suis pas non plus un spécialiste en intelligence artificielle. J'utilise une technologie très particulière qui sont les réseaux bayésiens. Donc on verra tout ça tout au long de cette conférence. Et ne vous inquiétez pas, ça ira sans doute un peu vite à certains moments. J'ai voulu que vous ayez des slides assez complets. Donc on essaiera de gérer au mieux le temps. Je sais que le repas attend et je ne voudrais pas que vous soyez en retard. Donc j'ai une expérience dans le système d'information et dans la formation. Système d'information, c'est-à-dire tout ce qui concerne la structuration, l'évolution des données, rendre des données propres, gérer les flux. J'ai travaillé dans la BI et je me suis aperçu qu'on utilise aujourd'hui des techniques que j'utilisais il y a 20 ans. Rien n'a bougé, juste la mise en forme. Donc la BI, c'est tout le processus d'extraction, transformation et de construction de tableaux de bord. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on ne prenne pas en compte tout ce qui est intelligence artificielle, toute cette capacité qu'on a de résumer l'information pour aller plus loin. Et donc j'ai décidé de créer ce que j'appelle un hub en intelligence artificielle, c'est-à-dire regrouper des technologies innovantes qui sont explicables. Comment est-ce qu'on peut aider des personnes en situation de décision à aller plus loin ? Un décideur a besoin de comprendre, mais avant de comprendre, il a besoin de confiance. Et le mot a été cité plusieurs fois. On ne peut pas décider sans confiance. Et donc, on a besoin d'avoir confiance dans les outils qu'on utilise. L'intelligence artificielle en fait partie. Toute ma problématique, c'est de remettre donc l'homme au centre de la prise de décision, l'homme au centre de la data et de tous ces processus annexes, et la cyber en fait partie. Nous allons parler d'algorithmique, de statistique, de causalité, de théorie de l'information, de sciences cognitives. Le programme est chargé, mais ça devrait bien se passer. Alors, passons à ce qui est l'intelligence artificielle pour la plupart des personnes. C'est un monde avec des personnes chauves et imberbes. C'est comme ça que c'est présenté par les médias. Mais c'est un monde qui peut faire peur ou un monde qui peut réjouir certains. Tout le monde est concerné, Cédric Villani en décembre, l'intelligence artificielle est l'affaire de tous. Donc j'ai eu l'occasion d'être audité et de faire un mémo sur moi. Ce qui me concernait principalement, c'était comment ne pas avoir de rupture, de fracture, entre guillemets, intelligence artificielle, vis-à-vis justement de tous ces présupposés, de tout cet imaginaire qu'il véhicule. On voit que la programmation militaire pour les armées parle de l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va compléter le travail de l'humain. On est à l'European Cyber Week, juste un éclairage sur ce qui est en cours avec les Allemands en ce moment. En France, mais aussi aux États-Unis, en France, 1,5 milliard, Cédric Villani, aux États-Unis, 2 milliards, rien que pour le Pentagone. On n'est pas aux mêmes échelles. Avec un projet d'avoir une intelligence artificielle explicable, ils n'en peuvent plus de devoir gérer des milliers de données pour comprendre quelque chose. Ils n'en peuvent plus d'avoir des systèmes qui leur donnent des informations sans comprendre pourquoi elles ont été construites. Et nous sommes dans cette pyramide, donc conceptuelle, par rapport au traitement de la donnée, la data, l'information, la connaissance. Le tout étant d'arriver à de la sagesse, comment est-ce qu'on peut manager la connaissance. Et tout le triangle, tout ce sur quoi se focalise notre regard, en fait, c'est que des processus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui est à droite, c'est la gestion du risque. Comment est-ce que l'être humain arrive à gérer ce risque? Je ne vais pas faire une explication de ce que c'est que la cybersécurité, juste ce petit truc qu'on a reçu dans nos valises. En arrivant, il y a 3 ans, ce n'était pas donné. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Un petit rappel historique fait toujours du bien. Alors le 1950 test de Turing, on voit que ça s'est développé dans un contexte de guerre froide, beaucoup de désinformation sur certains sujets, des déceptions, le perceptron en 69 qui va annoncer l'hiver de l'intelligence artificielle, tout ce qui était promis, eh ben, ce n'est plus possible, les budgets s'arrêtent aux États-Unis, ça ne concernera plus que les projets militaires, quelque chose de très intéressant en Angleterre, premier débat télévisé avec Minsky, l'un des responsables, ben, celui qui était à l'origine de ce mouvement d'intelligence artificielle en 56, et quelqu'un qui est mandaté par le gouvernement pour faire le point sur tous ces investissements qu'on fait et qui ne rapportent rien. Et c'est la première fois qu'à la télévision, le sujet est exposé de manière très explicite. Et les remarques qui sont faites, c'est qu'on a survendu l'intelligence artificielle, qu'on a alimenté l'industrie du loisir et que les scientifiques sont responsables de cela. Tout cela dans un contexte de choc pétrolier. On se rabat donc, les réseaux de neurones à l'époque, le perceptron n'ayant pas donné ce qu'il fallait, on se rabat sur les systèmes experts. Certains disent qu'ils ont failli. En fait, ils se sont assimilés dans des gros systèmes, style Oracle, Cybel, etc. Ils existent toujours, mais ils ne sont plus autonomes, ils sont intégrés dans des systèmes plus importants. Et puis le renouveau des réseaux de neurones, l'apparition des réseaux bayésiens, l'Internet qui va pouvoir enfin fournir les données qui manquaient, les premiers succès de l'intelligence artificielle au jeu d'échecs, l'ère des robots, on voit apparaître des robots dans les années 2000, le smartphone qui va encore révolutionner ce domaine et qui va impacter la sécurité, un contexte de sécurité suite au 11 septembre, besoin de renseignements, et puis toute cette évolution, cette révolution par rapport au deep learning. Donc voilà, brosser un petit peu le contexte historique dans lequel on est, des espoirs, des désillusions, et ça va, ça vient. Je vous propose de prendre un peu de recul, donc pour survoler cette carte dans laquelle on évolue quand on fait de l'analytique, quand on fait du raisonnement, et en fait il est principalement question de mathématiques quand on veut avancer dans ce sujet. Première fake news de la journée, un tableau de Magritte. On ne va pas demander à un ordinateur de comprendre ça, l'être humain le comprend tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? C'est une représentation de la réalité selon un point de vue. Et c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas vous présenter la réalité, je vais vous présenter un point de vue qui va vous permettre de comprendre les choses. Pour construire cette cartographie, nous allons prendre 2 axes. Un premier axe qui est à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on va construire des modèles? Un modèle, on va le construire soit pour comprendre des choses, style corrélation, pour découvrir, associer, ou soit pour faire de la causalité, comment les choses interagissent les unes avec les autres. Quelques questions pour bien comprendre. Corrélation, quelle est la probabilité que mon système soit attaqué? Quelle est la probabilité qu'on m'achète un produit? Causalité, quels sont les leviers sur lesquels je dois agir? Quels sont les effets d'un médicament? On voit qu'on n'est pas du tout dans le même domaine. Dans un domaine, on observe, on a sa loupe, on ne fait que parcourir les données pour trouver des formes. Dans l'autre domaine, on va actionner des leviers pour impacter un système. Et puis l'autre axe, c'est la source du modèle. Qu'est-ce qu'on prend comme source? De l'expertise ou de la donnée. Et ce qui nous est vendu actuellement, c'est que le big data va tout résoudre et qu'on n'aura plus besoin de théorie, les machines vont tout trouver toutes seules. Voilà donc notre carte pour se repérer, et puis on se pose la question, où est le machine learning là-dedans? Qu'est-ce qu'il occupe dans cette carte? Il occupe cette partie-là. Comment est-ce qu'on adresse la causalité? La partie la plus importante dans le renseignement, dans l'information. Question. En fait, on essaye de pousser le machine learning vers la causalité, mais il y a des limites. Pourquoi ? Ben parce que tout simplement, le machine learning, il va être dans cette recherche d'informations, de signaux, mais il ne comprendra pas ce qui va vous sortir tant que l'humain ne lui aura pas dit ce qu'il cherche et quelle est la validité de ce qu'il compte obtenir. Et cette partie qui est à droite, la partie causale, eh ben c'est la connaissance humaine. On a besoin d'humains pour traiter l'information des ordinateurs. Et donc, l'intelligence artificielle, si on est d'accord sur le mot artificiel, voilà, ce qui n'est pas naturel, on va dire, sur le mot intelligence, eh ben, quand on l'applique à l'humain, il est un peu plus large que ça, ce qu'on a entendu sur le machine learning. Il est question de capacité à résoudre un problème, etc., d'avoir des émotions aussi, d'aller plus loin. Et le machine learning, en fait, dans son fonctionnement, va traiter les manières de plusieurs façons. Une première manière, ça sera de minimiser des erreurs locales. C'est-à-dire, on va faire un acte, et puis on va dire, ah ben, cet acte-là, il n'est pas bon, comment est-ce qu'on peut le corriger ? C'est le phénomène des réseaux de neurones, correction par rétropropagation des erreurs. Dès qu'on a une erreur, on la remonte et on corrige. On peut le faire aussi par globalité. C'est-à-dire, ce qui est important, ce n'est pas chaque pas que je fais. Ce qui est important, c'est est-ce que j'ai réussi ? Est-ce que j'ai gagné la bataille ? Ou pas. Peut-être que j'ai fait des faux pas dans l'eau, mais ce n'est pas ça qui compte. Et donc, on va rentrer dans une autre catégorie de machine learning, qui sera du machine learning par renforcement. On va aussi avoir besoin, machine learning, de restreindre l'espace de recherche. Ça ne sert à rien de parcourir, de demander aux machines d'aller chercher des choses qui n'ont pas de sens. Et donc là, on va rentrer dans les réseaux de neurones à convolution. Et puis, on a besoin de projeter des hypothèses a priori. Toujours cette notion de ne pas aller chercher trop loin des choses qui ne servent à rien. Par exemple, pour le jeu AlphaGo, on a pu diviser par 8, avec les effets de symétrie, les stratégies. Et puis, en fait, on a aussi besoin d'apprendre à réutiliser ses compétences. Une fois qu'on a appris quelque chose, dans un domaine donné, on a appris à lire des chiffres, et bien pourquoi pas lire des lettres, pourquoi pas lire des dessins. Et donc, l'intelligence artificielle, je la donnerai en 3 points, c'est la capacité d'apprendre de manière supervisée, c'est-à-dire en sachant ce qu'on cherche, de manière non supervisée, en ne sachant pas du tout ce qu'on cherche, en demandant à la machine de nous trouver des proximités entre les choses. Et puis semi-supervisée, ben, c'est en fait, on a un très grand espace, mais on sait à peu près que c'est par là, donc on va lancer notre analyse de ce côté-là. Et puis la capacité à représenter de la connaissance. Une fois que j'ai fait, par exemple, je cherche à savoir quels sont les moyens de transport sur Terre, une fois que j'ai des paquets, ben, qu'est-ce qui signifie ces paquets ? Ah ben tiens, il y a les véhicules terrestres, il y a les véhicules aériens, etc. Et puis, il y a ensuite la capacité d'inférence et de raisonnement. Est-ce que tous les véhicules terrestres ont 4 roues ? Ah ben non. Est-ce qu'il existe des véhicules terrestres qui peuvent voler ? Est-ce qu'etc. Et donc, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que le machine learning. Pour bien comprendre ces concepts, j'insisterai particulièrement sur les réseaux bayésiens, qui sont mon domaine, mais je commencerai par une introduction rapide aux réseaux de neurones. Donc, on veut lire une image qui est sur 28 par 28 pixels. Ce qui est important ici de comprendre, c'est qu'on va avoir à optimiser près de 13 000 paramètres. Et on n'est pas en flux continu, on n'est pas dans la haute définition. Donc on comprend vraiment qu'il y a des problèmes de calcul. On est vraiment dans... Et c'est là que les réseaux de neurones vont être performants. L'idée étant, à terme, ce qui n'est pas le cas, là c'est un dessin qui concerne des réseaux de neurones très simples, où on arrive à comprendre ce qui se passe, première, deuxième couche, mais au-delà, on ne comprend pas comment fonctionne un réseau. On aimerait bien que ça soit comme ça, c'est-à-dire les couches qui s'implémentent les unes aux autres et qui se donnent de l'information, mais... Quand on donne, par exemple, à un réseau de neurones une image brouillée, ben, il va vous dire que c'est un 5, vous ne comprendrez pas pourquoi. En allant plus loin, les réseaux de neurones à convolution, donc on va filtrer les choses, on va fonctionner un peu différemment. Stéphane Malla, donc, qui est spécialiste du domaine, voilà, on se pose la question, comment ça se fait que ça marche si bien ? Et faire des tests, ça ne garantit rien. Comme l'image brouillée pour le 5, ce qu'on a là sur la droite, on a une colonne où il y a trois images bien classées, on ajoute du bruit, de la perturbation. En résultat, pour nous, êtres humains, c'est les trois mêmes images. Pour le système de classification, ce sont des autruches. Et on ne peut pas le prévoir. Et donc, à l'issue de sa conférence, il dit qu'il ne prendra jamais un avion piloté par réseau de neurones. On va avoir des voitures autonomes pilotées par réseau de neurones, mais heureusement, on va les combiner avec d'autres choses. Sachant que ce sont des systèmes aussi, on a des systèmes faillibles, c'est-à-dire une fois que quelqu'un a trouvé la faille qui fait que quand on montre une image brouillée, il comprend que c'est un 5, et il peut en jouer, et comme là sur le panneau stop, faire en sorte que la voiture ne détecte pas qu'il y a deux stops. Je vais passer rapidement là-dessus, mais les réseaux de neurones, beaucoup de calculs intensifs, beaucoup de systèmes, beaucoup de données, résoudre un problème de bout en bout sans se poser de questions, rapidement. La difficulté, c'est d'avoir les infrastructures qui vont avec. 2 semaines pour apprendre à partir de rien avec ResNet, il faut avoir du temps, et les infrastructures qui font. Et puis la grosse question, c'est comprendre, et puis surtout, comment est-ce qu'on traite les valeurs manquantes? Ce ne sont pas les valeurs manquantes qui manquent, et ça serait dommage de s'en priver. Réseau bayésien, Judea Pearl. Réseau, c'est un informaticien, et puis bayésien, parce qu'il utilise l'inférence bayésienne qui consiste à tout simplement ce qu'on fait tout le temps. On parle de cerveau statisticien actuellement. Il se passe un événement, mon cerveau a des probabilités sur cet événement, par exemple quelqu'un tousse, automatiquement je vais l'associer à quelque chose. Je ne vais pas l'associer au choléra, parce qu'on n'a pas le choléra en France, par exemple. Je vais l'associer à un rhume. Donc c'est ça l'inférence bayésienne, c'est j'ai des a priori sur des choses, je revois mon jugement, et à partir de ce jugement, j'infère des probabilités qui correspondent le mieux à ce qui se passe. Et donc, il a reçu le prix Turing, on va dire l'équivalent du Nobel en intelligence artificielle en 2011, pour ses travaux qui font dire à l'une des personnes que les réseaux bayésiens sont aussi importants à l'intelligence artificielle que les circuits booléens à l'informatique. Donc, en gros, s'il y en a dans la salle qui n'ont pas fait de réseau bayésien, c'est comme s'il y avait des informaticiens qui, dans leur cursus, n'avaient jamais fait de circuit booléen, ce qui peut porter question. Mais on est dans un monde où les technologies avancent, et donc en effet, la technologie portée actuellement, ce sont les réseaux bayésiens, ce sont les réseaux de neurones, et dans l'idée, vraiment, c'est d'arriver à coupler ces deux technologies, les réseaux de neurones très performants en calcul, et les réseaux bayésiens très performants en aide à la décision. Et donc voilà un flux, par exemple, avec des réseaux bayésiens. Peu importe qu'on ait de la donnée ou de l'expertise humaine, on la met dans le réseau et on obtient de quoi décider. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau bayésien? Très simple. On va représenter de manière qualitative, c'est-à-dire on a 2 variables, on met une flèche, laquelle influe sur l'autre, et de manière quantitative, c'est-à-dire dans chacune de ces variables, on met un tableau de probabilité, c'est-à-dire par exemple A, ça peut être A1, A2, A3, ça peut être des chiffres d'affaires. On a 30% de A1, 60% d'A2, 10% d'A3. Et puis, en fonction de ces probabilités, dans B, il y aura des probabilités associées. Par exemple, pour A1, on aura 80% de B1 et 20% de B2. C'est aussi simple que ça. La puissance de cet outil, c'est qu'on ne se pose plus de questions d'équations. La théorie de Judea Pearl dit que ce qu'on vient de représenter là, si ça représente notre domaine et qu'on a tous les paramètres, c'est la réalité. Ce n'est pas une équation qui approxime la réalité. Et puis, on n'est plus dans du linéaire, etc. On ne se pose plus la question, l'arc porte vraiment du non-paramétrique. On va discrétiser pour que les choses se passent bien. On est dans du non-paramétrique et du multidirectionnel, c'est-à-dire l'information ne circule pas que dans le sens de la flèche, mais circule dans les 2 sens. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avec un exemple, là c'est quelques caractéristiques des réseaux bayésiens, donc on en a parlé, et on va voir que ça aide vraiment à interagir et à accélérer l'échange avec la machine et à augmenter notre capacité de comprendre les choses. Alors partons dans ce que j'appelle le continuum humain-machine. on va explorer l'intelligence artificielle. On va commencer par l'intelligence. C'est la partie sur laquelle ça sera un peu plus long. L'intelligence, eh ben on l'a depuis la nuit des temps. On vit dans un monde complexe et incertain et on a toujours eu notre expertise. Nous avons chacun une expertise dans un domaine donné. Le monde devient compliqué et on se pose la question et on se dit, ben maintenant on a de la data en plus. Et donc il est temps d'y aller. Oui, mais attention, il ne faut pas oublier qu'on a de l'expertise aussi. Hein. Il n'y a pas que le big data. Et on va voir que la logique, quand il pleut, je vois des gens qui portent un parapluie. Et ben la logique est parfois mise à défaut. Quand il pleut, il y a des gens qui ne portent pas leur parapluie comme il faut. Et puis, même quand il ne pleut pas, il y a des gens qui mettent des parapluies. Alors là, la logique, elle ne fonctionne plus. La logique n'est pas capable de capter les incertitudes dans les prémices. Alors, il y a des logiques, il y a des systèmes logiques statistiques et même quantiques auxquels on pense actuellement, mais la logique ne suffit plus. Plus de logique, et bien on fait des probabilités pour capter l'incertitude. On va faire un exercice ensemble. Vous êtes juré d'une cour de justice. Un taxi a renversé un piéton à la tombée de la nuit et s'est enfui. Et le seul témoin qu'il y a est tout à fait fiable, rien à dire dessus. Il vous dit que le taxi est blanc. Il y a deux compagnies de taxis dans la ville, des blancs, des jaunes. On vote, ben on attaque, on va se plaindre à la compagnie de taxis blancs. On vous rajoute l'information que ben, la compagnie de taxi blanc fait venir un expert qui dit « Oui, mais écoutez, à la tombée de la nuit, on n'a que 80% de précision visuelle. » C'est-à-dire, quand il vous dit jaune, vous faites confiance à 80%. Quand il vous dit blanc, vous faites confiance à 80%. Est-ce que vous changez votre jugement ? 99% des gens disent non. Et pourtant, on va le représenter avec un réseau bayésien. Le taxi, 85% de taxis jaunes, 15% de taxis blancs. On va encoder notre table de probabilité, et puis on s'aperçoit déjà que quand on rentre dans le système, le fait qu'il y a ce 80%, ben en fait, le témoin, dans le monde dans lequel il vit, il y a 71% de taxis jaunes et 29% de taxis blancs. Étonnant. Mais la question qui se pose, c'est pas ça, c'est si on remonte le flux d'informations, sachant que le témoin dit que c'est blanc, quelle est la probabilité que le taxi soit blanc ? Eh bien, la probabilité que le taxi soit blanc est de 41%. Il faut deux témoins pour passer à 74%. Donc, juste pour comprendre, et ça, c'est un exemple extrait du livre de Kahneman et Tversky, prix Nobel d'économie récemment, juste pour comprendre qu'on a des biais et que notre cerveau n'est pas capable de les intégrer. Et donc, on raisonne très bien dans un sens, comme cette équation. Vous avez x1, x2, xn, vous calculez b, y. Si je vous demande de trouver x1, ça commence à être compliqué. Et bien avec de l'incertitude, c'est encore plus compliqué pour notre cerveau. Et on a des biais qui sont là, qui sont présents. Le diagnostic est compliqué. Notre cerveau ne suffit plus. Et donc, on a besoin de systèmes experts qui vont faire le travail pour nous, mais dans lesquels on puisse avoir confiance, qui soient transparents. Et donc, pouvoir, on aura des réseaux bayésiens immenses, on interviendra sur un nœud et toute l'information se propagera au réseau. C'est-à-dire, il n'y a plus de X, de Y, tout le monde est X, tout le monde est Y, à n'importe quel moment. L'autre chose, on nous parle de big data et on met à la poubelle l'expertise. On fait une expérience, on tire des boules dans une urne, on demande de deviner la composition de l'urne. On comprend tous qu'en deux essais, même au premier essai, on avait une idée déjà de la composition de l'urne. On savait qu'il y avait du rouge, du blanc, et on se disait trois quarts de rouge, un quart de blanc. Et notre cerveau comprend tout de suite que l'image à gauche, c'est pas possible. Il y a un problème. Demander à un réseau de neurones de résoudre ça, il ne peut pas. Il n'y a que deux données. Autre chose, on est ici dans un cas réel de détection de dopage dans des courses équines de chevaux. On fait des prélèvements sanguins, une certaine concentration. On sait que normalement ça suit une distribution normale, avec une certaine moyenne, un certain écart type. Et on se pose la question de savoir, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les chevaux n'ont pas fait tous le même nombre de courses. Il y en a qui ont couru 2 fois, d'autres 10 fois. Comment est-ce qu'on peut tirer des hypothèses là-dessus? Et puis l'échantillon contenait 1000 et quelques données. Eh bien, sachant l'intervalle de la moyenne, on se dit la moyenne se situe à peu près dans tel domaine, l'écart type à peu près dans tel domaine, eh bien on va estimer, avec de l'inférence bayésienne, cette probabilité. C'est tout simple, un petit peu comme dans la boîte, je tire le premier cheval, sa concentration est de 1, ben j'estime que la moyenne de ma population est de 1. C'est tout ce que j'ai pour raisonner, et que l'écart type est 0. Je tire un deuxième, c'est 2, et ben j'estime que ma moyenne est de 1,5, et que mon écart type est de, etc., etc. Et on arrive comme ça à trouver une loi de probabilité qui va nous apporter de l'information, qu'on va pouvoir ensuite réutiliser en injectant cette fois-ci les faits de suspicion que l'on a, savoir est-ce qu'un en ajoutant cette fois-ci le vrai prélèvement du cheval, et puis en demandant au système, maintenant on sait qu'on est dans un environnement où a priori il y a 7% de dopage, 7,5% de dopage, donc on rajoute nos informations personnelles du domaine, et on lui demande d'évaluer ce qui se passe. Et on voit comment évolue, donc il y a 10 prélèvements là qui ont été faits dans le temps, donc on prend 9, on rajoute le 10e, et on voit comment évolue le système. Donc au tout début, le cheval est clean, si on avait fait que la première observation, si on en a fait 2, etc. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la troisième information, le 0,748, est très proche du 0,799 de la fin, et que pourtant, on l'avait détecté à l'époque comme non suspect. Donc on voit qu'il y a cette expertise humaine, entre guillemets, qui commence à être un petit peu captée dans le système. Autre chose, on voit des courbes comme ça, le nombre de meurtres un peu bizarres corrélé à l'âge de Miss America. Waouh, super, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, hein. C'est génial. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que vous en faites? Vous avez des corrélations, qu'est-ce que vous en faites? 87% de corrélation, hein. Le rêve de tout statisticien. Eh bien, la question qui se pose, c'est justement, c'est bien beau de chercher des dépendances, mais nous, dans la vraie vie, quand on est face à des risques, ce qui nous intéresse, c'est les causes. Et quand on remonte avec cet exemple de Newton, qui écrit sa formule sur la seconde loi de Newton, qui nous dit, dans son écrit, il écrit que une force imprimée à un objet crée le mouvement. Donc une force à droite, une force imprimée à un objet d'une certaine masse, va le mettre en mouvement, une accélération. Et là, c'est une écriture causale. A est la cause de F et de M. Quand on va faire de l'algèbre, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver M. Oui, mais sauf que là, ça n'a plus de sens causal. Donc l'algèbre est incapable de capter la causalité. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en faisant un dessin. Et c'est là le génie de Judea Pearl, c'est de se dire, après tout, on va capturer la causalité dans un dessin. Un enfant est capable de vous faire un dessin de causalité. Ce qui a tenu en échec, d'ailleurs, ce n'est plus des statistiques, on est passé dans un autre domaine, une nouvelle science qui est en train d'émerger, qui est l'inférence causale et qui se base là-dessus. Et donc on va capturer dans des graphes orientés mais sans cycle la causalité. Si vous avez des questions par rapport à comment on traite les cycles, ça pourrait être une première question à la fin de la conférence. On va comprendre la causalité ici avec un cas construit de toutes pièces. Vous avez fait une publicité et puis vous voulez savoir est-ce que la publicité a été efficace. Ok, donc on a le sexe des personnes, on a le fait qu'ils ont essayé ou pas une voiture, c'est une publicité pour des voitures, et le fait qu'ils ont vu la pub. On fait du 50, on équilibre vraiment les personnes qu'on a dans notre échantillon. Et puis en fait, le premier arrive et dit non, la pub elle a servi à rien. Quand on prend toute la population, moins 15. Et puis il refait ses études, il dit si on rajoute, si on segmente par hommes et femmes, ça a très bien marché pour les hommes, très bien marché pour les femmes. Et puis si on segmente par est-ce qu'ils ont essayé la voiture ou pas, ça n'a pas marché. Et puis si on segmente par les deux, alors là on ne sait plus où on en est. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va voir le boss, il a dépensé 4 millions de pubs, on lui dit que c'est le tableau 2 qui a marché. Hein. Et ça marche souvent comme ça. Si on mettait un peu de science là-dedans, on construit le modèle causal. On cherche les chemins causaux, donc c'est la science de la causalité. On voit que dans le chemin causal, il y a quelque chose qui nous embête. On veut trouver l'effet de la pub sur l'achat, mais on voit que la pub est influencée par le fait que ça soit un homme ou une femme. Ben oui, il y a plus d'hommes qui regardent la pub que de femmes. C'est comme ça. Et donc, notre système est perturbé à cause de ça. Et donc, le fait de résoudre cette problématique va nous permettre de choisir le bon tableau. On va faire de la chirurgie de graphe. Donc, c'est ce que Pearl a introduit. On va contrôler la variable de sexe. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va passer d'un modèle causal à un modèle d'intervention. Vous vous rappelez, dans notre graphique, on a la partie corrélation à gauche, la partie causalité à droite, et bien là on intervient dans le modèle. En fait, en faisant cette intervention-là, ce qu'on demande au modèle, c'est de se placer dans une configuration toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire ne pas tenir compte du fait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes qui ont regardé la pub, enfin ne pas tenir compte, en tenir compte dans le système, mais en faisant en sorte que ça soit vraiment que l'effet causal de la publicité qui influe. Et on trouve que, ben finalement, en lisant le graphe, on a aussi une équation qui nous permet de choisir le bon tableau. Donc on voit que, ici, on est dans un cas très simple, quatre variables, on traite en machine learning des centaines, des milliers de variables. La chose importante à comprendre, c'est que quand on fait du machine learning, on fait de l'observation. Quand on fait de la causalité, on intervient dans un système. Si on intervient dans un système, on le change. Quand les laboratoires pharmaceutiques mettent des médicaments sur le marché, ben on espère bien que c'est le médicament qui va nous guérir et non pas la tisane qu'on a bu la veille. Donc, on donne un traitement, d'où le nom traitement, c'est que vraiment, ça va avoir un impact sur le système, ça va le modifier et donc on ne peut plus tenir compte de ce qu'on avait avant. Et donc si on revient dans notre graphique précédent et qu'on formalise les choses, le machine learning, ça consiste à faire de l'observation et à trouver, à se balader dans notre espace et à trouver les formes les plus adaptées pour comprendre des choses. Par contre, l'inférence causale, elle va modifier notre manière de percevoir le système. Donc dans un cas, on change notre perception des choses, dans l'autre cas, on change le système et on voit comment ça influe. Et donc, il est interdit, mais c'est ce qui est fait très souvent, de passer directement du machine learning à la causalité. Par contre, on peut le faire, mais ça nécessite de se mouiller et de faire des hypothèses, comme on a fait tout à l'heure, de faire notre graphe et de justifier le fait qu'on n'a pas pris en compte dans notre équation telle et telle variable. On peut, avec les réseaux bayésiens, faire aussi calculer des prises de décision, c'est-à-dire on va rajouter à notre réseau bayésien, qui sont les deux ronds bleus, des variables de décision et des variables de coût. En fonction de tel coût et de etc., quelle est la meilleure décision à prendre ? Quelle est la décision la plus coûteuse, la moins coûteuse ? Et le système va nous dire ce qu'il convient de faire. Un autre aspect intéressant, méthode Delphi, on est dans la période de la guerre froide. La question se pose de savoir comment est-ce qu'on peut, à partir des informations qu'on a, en tirer des renseignements intéressants. Deux choix, soit on lève les mains au ciel, comme ils le disent, et puis on attend que ça se passe, soit on prend ce qu'on a à disposition, c'est-à-dire des experts de différents domaines, on les réunit autour d'une table et on extrait leur expertise. C'est ce qu'on arrive à faire avec des réseaux bayésiens. On réunit, par exemple, chez Procter & Gamble, le responsable recherche et développement de tel produit, le responsable marketing, les femmes de ménage, des ménagères, etc. On se réunit autour d'une table et on pose la question, voilà, comment est-ce qu'on peut améliorer le produit ? Maintenant qu'on a vu la partie intelligence humaine, on va partir sur le sentier de l'artificiel. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que c'est le machine learning dans l'intelligence artificielle ? C'est ça, c'est en fait chercher le meilleur modèle. Vous voyez par exemple ici pour trois nœuds, donc pour trois variables, la combinaison, on a 25 combinaisons possibles de modèles. Donc il faudra, quand on en aura 12, on a 5,2 10 puissance 26. Et donc la question se pose de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir, dans cet univers de recherche, on a un espace de recherche, et on va se balader dans cet espace de recherche pour trouver le modèle le plus adéquat à nos données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à la théorie de l'information de Shannon. Théorie de l'information, rapidement, avec les probabilités, c'est assez simple à comprendre sur ce schéma. Vous avez une distribution de probabilité pour une variable, donc vous voyez les deux barres bleues à gauche, qui vous donne une entropie, qui vous mesure, on va dire, c'est le stress du système. En bas à gauche, le stress est maximal. La distribution de probabilité est plate, c'est-à-dire je joue à pile ou face, je ne sais pas quoi choisir. En bas à droite, l'entropie est nulle, c'est-à-dire mon stress est minimal, je sais que je suis dans la situation CAD. Et toute la théorie de l'information, ensuite, ça va être ben, quand on rapproche des variables entre elles, des variables qui ont une certaine entropie en les mettant ensemble, vont baisser en entropie, parce qu'elles vont s'apporter mutuellement de l'information. Et tout le but, c'est de trouver quelles variables mettre ensemble pour être pertinent et ne pas avoir un modèle pour ne pas relier tous les points inutilement. Et donc, on va arbitrer avec un score, une fonction de score ici, entre la complexité du modèle. Et donc, on part avec un biais. Les biais sont nécessaires quand on fait de la modélisation. Le biais ici, c'est le rasoir d'Occam. C'est-à-dire, parmi toutes les possibilités, on prend ce qui est plus simple. Le petit graphique qu'il y a entre les deux images, c'est ça. Vous avez des points, on vous demande de tracer une droite entre ces points, ben, c'est une ligne. Personne ne va aller faire des zigzags. À moins d'être créatif. Et puis, ensuite, on équilibre donc cette complexité et puis ce fait de coller aux données. On peut relier les points précisément entre eux, si on le souhaite, mais si on relie des points précisément entre eux, quand un nouveau point arrive, eh ben, il risque de ne pas tomber là où on espérait. Et donc, il faut trouver cette balance entre être complexe et être très proche de la réalité. Et avec les réseaux bayésiens, c'est très visuel. On a une distance entre les modèles qui consiste à dire, ben, je mets un arc, quand j'enlève l'arc, quelle est la variation de mon entropie ? Pour ceux qui font des réseaux de neurones, très peu le savent, donc ça peut vous être utile, il existe ce qu'on appelle la couverture de Markov. Quand vous construisez un réseau bayésien, que vous avez une cible à déterminer, quelque chose à optimiser, dès lors que vous connaissez ses parents, ses épouses et ses enfants, tout le reste, vous pouvez le mettre à la poubelle parce que c'est conditionnellement indépendant. À moins que ce soit des variables qui sont importantes pour vous dans votre compréhension métier, vous les rajoutez, mais vous savez que le modèle sur lequel vous devez partir, ce sont ces trois rectangles-là qu'on a, les variables qui sont dans ces trois rectangles-là. Donc, sur des centaines de milliers de variables, on peut rapidement passer à 1000 variables, comme ça. Quelque chose qui va vous parler, un scénario d'attaque avec réseau bayésien. Donc, j'étais en formation à Chicago la semaine dernière, avec quelqu'un de chez Google, justement. Ils sont 5 dans le monde, a priori, à travailler sur la cybersécurité. Et ils s'intéressent à ces trucs-là. En se disant, ben, on ne comprend rien de ce que nos systèmes nous sortent. On veut passer du stade, comment est-ce qu'il disait, de la détection de l'épidémie au stade de la compréhension du chromosome, en gros. Voilà. Donc, que font nos systèmes ? Ils nous donnent des résultats, on les exploite, on sait comment faire, mais on aimerait comprendre d'où ça vient. Et donc, on peut rajouter ensuite à ces graphes-là des coûts, etc., des facilités de prise de décision. Et donc ici, on voit comment varie le système. On a fait comme le taxi tout à l'heure. J'ai pris dans la zone jaune, j'ai mis des évidences que j'avais par rapport aux personnes, leur aversion au risque, etc. Et puis, on voit comment évolue dans tout le système la sécurité. Ce genre de réseau a été construit par expertise. On peut, une fois qu'on a des probabilités, générer des tables de chiffres. On va pouvoir générer des tableaux Excel. Donc, vous construisez à la main, comme on a fait avec notre taxi, tout à l'heure quelque chose, et vous dites, j'ai envie que mes équipes bossent avec. OK ? On demande une génération de fichiers. Quand c'est 50-50, s'il y a 50 A et 50 B, il vous génère 5000 lignes de A, 5000 lignes de B, 40 000 lignes de A, 40 000 lignes de B, etc. Et on voit que, en prenant ces données de modèle et en les réinjectant dans un système de machine learning, eh bien, on voit qu'il n'obtient pas la même chose. Un modèle plutôt simple, un modèle d'arbre, il manque des choses, et puis un modèle basé sur un apprentissage différent, on voit que les connexions sont nettement différentes aussi. Et là, on mesure bien l'écart qu'il y a entre l'expertise humaine et ce que le machine learning apporte. Avec en plus l'inconvénient que le machine learning ne fait pas de causalité. On peut aussi visualiser l'entropie des nœuds, c'est-à-dire le stress qu'il y a sur les variables. Donc une fois qu'on a notre réseau, on le met en mode graphique ici, avec chaque nœud représente cette entropie-là, et on se dit, ben, dans notre système, la variable à surveiller, c'est la grosse rouge à droite, là. Parce que c'est la plus incertaine dans notre système. Les toutes petites, elles sont maîtrisées. Alors, quelle perspective est-ce qu'on peut donner à tout ça ? La première, c'est déjà comprendre qu'on n'est pas dans un monde de sorciers où on lance des programmes, on tourne des boutons. Si on veut aller plus loin, on a besoin de science, on a besoin de mathématiques, on a besoin de croiser des disciplines, comme ça a été dit tout à l'heure. On a besoin de littéraires, on a besoin d'historiens, on a besoin de... Tous les corps de métier sont indispensables pour comprendre ce que l'on fait. Il y a beaucoup de fantasmes autour des réseaux de neurones adversariales, par adversaire, qui consiste en fait à... On va développer deux réseaux de neurones en parallèle, un qui va essayer d'acquérir une expertise et l'autre qui va essayer d'être un super faussaire, en gros. Et donc, en faisant ça, on aura un très bon expert, un très bon faussaire. Et le rêve dans la sécurité, c'est de se dire, ben, c'est super, si on arrive, nous, à développer le super expert sans que les autres sachent quel est le super faussaire, ou si on arrive à comprendre comment fonctionne un super faussaire, eh ben, on a gagné. Sauf que, il faut raison garder, le AlphaGo, un jeu de Go, je rappelle que c'est un plateau de jeu avec des pions noirs et blancs. Là, on est dans un monde réel avec des êtres humains. Google, il y a eu cet article qui est sorti en 2016, oui, etc. Et puis quand on creuse, on voit que, ben, en fait, ils ont utilisé le logiciel sur un data center avec 120 variables. On n'est pas encore dans le big data. Hein. Donc je ne voudrais pas vous décevoir, mais ça ne sera pas pour tout de suite, l'application de cette technologie pour la sécurité cyber. Et puis pour aller plus loin, l'avenir il est là en fait, il est dans la composition des choses, c'est-à-dire quand est-ce qu'on pourra arriver en effet à ce petit dessin que j'avais fait des réseaux de neurones avant là, à partir des résultats qu'on a, de comprendre comment tout le processus d'acquisition s'est construit pour en tirer de la connaissance. Le but ce n'est pas d'avoir des systèmes qui fonctionnent bien, le but c'est d'avoir des humains qui fonctionnent bien, en quelque sorte. Des humains qui comprennent ce qui se passe pour avoir confiance dans les outils décisionnels qu'ils utilisent. Et donc, construire des modèles causaux, des modèles explicables, des modèles compréhensibles du monde, d'où la nécessité de croiser des expertises, des compétences variées, de ne pas se limiter juste au monde informatique, de combiner des théories, de la physique, mais aussi de la psychologie. On a vu qu'on a des biais, donc il y a pas mal de choses qui peuvent jouer, pour enrichir ce qui est appris. Et puis exploiter la compositionnalité, c'est-à-dire ben, la capacité de pouvoir mélanger des choses et puis la capacité d'apprendre à apprendre. Une fois qu'un système a appris, eh ben, est-ce qu'on peut lui dire comment continuer d'apprendre aussi bien ? Ou quand il a mal appris, est-ce qu'on peut lui dire d'arrêter d'apprendre aussi mal ? L'autre piste aussi, il sera question de data, c'est de se dire... Ben, pourquoi ne pas faire le calcul de ces intelligences artificielles, entre guillemets, à la source ? Au lieu de se rapatrier des milliards de données dans des data centers infinis, ben, si on peut, dès lors qu'on a un capteur, quelque part, savoir si l'information est pertinente ou pas remontée dans notre système, on gagnera beaucoup. On a besoin donc... de la complémentarité des outils. On voit qu'on a deux technologies, l'une qui est émergente et qui en effet tourne très bien. J'étais j'avais rencontré quelqu'un de chez Amazon qui faisait une formation réseau bayésien et qui me dit « Mais votre truc, ça m'embête parce que je dois me pencher sur un système pour comprendre comment ça marche. Moi, j'ai des millions de clients à gérer. Je veux savoir tout de suite sur quel bouton appuyer, quoi. Ça ne m'intéresse pas de comprendre. » Et bien, petit à petit, ça, c'est en train de changer. Et puis, je terminerai avec cette citation de Bernanos. Bernanos, qui est le premier Français, avec Saint-Exupéry, à avoir utilisé le mot « robot » dans un écrit. Le mot « robot », ça date seulement de 1927. Bernanos, c'est les années 40 qu'il écrit. « Le danger n'est pas dans les machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués dès leur enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent leur donner. » Je vous remercie et je suis ouvert à vos questions.
Merci Emmanuel. Donc nous allons prendre quelques questions avant d'aller déjeuner. Alors qui se lance
pour la première question est facile, je l'ai soufflée pendant ma présentation. Ça y est.
Donc il a retenu. Donc on a une question devant.
Donc le oui, allez-y. D'accord. Alors, Google et le jeu de Go, ils ont utilisé une technologie de réseau de neurones de deep learning qui fait fantasmer beaucoup de monde parce qu'on se dit, ça y est, une machine est capable de battre un être humain. Sauf que une machine est capable de battre un être humain sur un jeu de plateau. Un jeu de plateau, ce n'est pas une opération militaire, c'est pas un environnement commercial, c'est un jeu de 19x19, avec des pions noirs et blancs. Et donc, le fantasme que l'on a, c'est de se dire, ben, ça marche pour le jeu de Go, on va l'appliquer au monde réel. Eh bien non, ça ne marche pour l'instant. Les tests qu'ils ont faits à l'époque, c'était sur ce type de données-là, parce que c'est des environnements beaucoup plus complexes qu'un jeu de Go.
Une autre question ?
Je vais répondre à ma question sur les graphes acycliques.
Tout le monde l'attend, je pense.
Alors en fait, un réseau bayésien, en effet, on s'interdit d'avoir des boucles. Parce qu'on voit bien que la probabilité de l'un qui donne la probabilité de l'autre et qui revient. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on introduit le temps. C'est-à-dire on va avoir des réseaux bayésiens dynamiques, tout simplement. Donc on va formaliser de manière compacte. Au lieu d'avoir des réseaux les uns à la suite des autres, d'en avoir 70 ou 100 ou 1000, on va formaliser de manière compacte ce dynamisme qu'on a entre les réseaux bayésiens.